Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Frédéric Michel.
Il est 10h, passé de 7 minutes sur Europe 1. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Les grandes voix avec le retour aujourd'hui de Gérard Carrérou. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Bonjour à Catherine Ney, Michel Cotta. Et bonjour Charles Villeneuve.
Bonjour.
Ce matin, l'émission est presque entièrement consacrée à la guerre en Ukraine. Après une semaine de combat, faut-il s'attendre au pire ? L'Élysée le redoute. Si les Russes ne sont toujours pas rentrés dans Kiev, ils ont mis la main sur plusieurs infrastructures stratégiques du pays. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le bombardement de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, la centrale de Zaporijjia, a provoqué un vent de panique. Doit-on craindre l'accident nucléaire ou même un conflit nucléaire ? Le dialogue avec Vladimir Poutine est-il encore possible ? Emmanuel Macron et le maître du Kremlin continuent à se parler au téléphone, mais si le fil n'est pas rompu, il semble très difficile de se faire entendre et de faire entendre raison aux leaders russes. La guerre en Ukraine qui bouscule la campagne présidentielle, désormais officiellement lancée, avec depuis 24 heures une dernière candidature attendue, celle du président sortant. Dans une lettre aux Français, Emmanuel Macron admet n'avoir pas tout réussi et promet « Je suis candidat pour inventer avec vous ». Son costume de chef de guerre peut-il lui permettre de plier la campagne dès ce début mars ? Nous allons en débattre. Vous avez le programme des grandes voix. Installez-vous, on est ensemble jusqu'à 11h. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou à nos livres d'école. Elle est là, sous nos yeux, déclaration du président Emmanuel Macron cette semaine. Alors que l'inquiétude grandit, le pire est-il devant nous, comme le déclarait encore mercredi soir le chef de l'État ? Nous en débattons avec nos grandes voix. Et d'abord, sur le terrain, les Russes viennent de proposer ce matin un cessez-le-feu pour permettre l'ouverture d'un couloir humanitaire à Mariupol, alors qu'ailleurs, les morts dans les deux camps se comptent désormais par centaines, peut-être par milliers, sans chiffres précis, et que l'armée russe a jeté dans la bataille des dizaines de milliers d'hommes, Charles Villeneuve.
Écoutez, à l'heure actuelle, quand on déploie ce que Poutine a déployé, c'est pour mettre la main sur l'Ukraine. La totalité, la conquête est totale, sera totale, c'est très clair. Elle sera territoriale et politique. Il ne faut pas l'oublier, l'un des buts de la guerre, c'est de destituer le président actuel de l'Ukraine, Zelensky, et de le remplacer par une équipe à la botte, vraisemblablement, de Poutine. Là, tout à l'heure, dans le journal, on a parlé, notre journaliste a parlé longuement de Mariupol. Le port, c'est un port clé, en effet, parce qu'il est là pour assurer le ravitaillement de l'armée russe, de sa logistique d'armement, de munitions et de nourriture. Les Russes, et c'est ça qui est stratégique à l'heure actuelle, sont aux portes de Kiev, de la capitale, qu'ils bombardent par voie aérienne et avec ce qui est l'un des points forts de l'armée russe, c'est l'artillerie. C'est l'un des atouts maîtres, de toute façon, des Russes. Et puis, il ne faut pas se faire d'illusions, il y a une résistance plus active que prévu. Mais la force et la puissance terrestre sont du côté russe, dont la doctrine militaire, et là je fais allusion évidemment à l'utilisation de l'arme nucléaire tactique, prévoit l'utilisation d'armes nucléaires tactiques à moindre rayon d'action sur le champ de bataille. Et je me demande si, dans la conversation entre le président de la République française et Poutine, ce dernier n'a pas fait allusion justement à cette utilisation.
Qui a glacé en fait le sang d'Emmanuel Macron. On imagine bien que la conversation, on dit que les relations sont plutôt franches entre les deux hommes. Gérard Carrérou.
Oui, les relations, enfin ce qu'on nous donne des relations, c'est un peu le théâtre de la négociation. Bon, à la limite, n'accorde pas une très grande importance à ces dialogues-là qu'on nous montre. Alors mon vieux, comment tu crois-tu à nous jouer les... Bon, c'est un peu du cinéma, c'est pas ça le sérieux. Ce qui est sérieux, c'est ce que nous avions... Il y a 15 jours ici, nous étions tous les quatre et nous avions dit « La guerre, c'est ce qui est le plus probable ». Nous avions malheureusement eu raison. Et là, ce matin, moi, j'ai envie de dire « La guerre, elle est probablement durable ». C'est-à-dire, je partage ce que dit Charles sur la volonté de Poutine de conquérir l'ensemble de l'Ukraine. Et pour cela, comme il y a des difficultés eh bien, la guerre sera durable. Elle peut durer plusieurs semaines, voire des mois. Que ce qu'on voit à Marioupol, on voit une chose très importante qu'on verra certainement à Kiev et dans d'autres villes. L'idée c'est, de Poutine, c'est on va vider les villes du maximum des habitants. On va faire des couloirs sanitaires qui permettent à des centaines de milliers de gens de partir. Et comme ça, on pourra pénétrer dans la ville sans faire des massacres qui tueraient évidemment des dizaines, des milliers, voire plus de morts. Donc l'idée, c'est vider les villes, les conquérir et peu à peu s'installer avant de négocier, conquérir le territoire en détruisant toutes les infrastructures.
Oui, les couloirs humanitaires, ce n'est pas de l'humanité. C'est au contraire, moins il y aura d'Ukrainiens en Ukraine, plus on sera tranquille, plus la voie sera libre. Et puis, surtout, on voit bien que d'ici 2-3 jours, Kiev sera complètement encerclé. Donc, d'où des difficultés qui sont déjà importantes, de ravitaillement, de lait pour les enfants, de médicaments. On voit dans les hôpitaux tous ces gens malades, on ne peut plus les soigner. Donc, on est en train de tuer une population sans même envoyer des armes. Il faut juste du temps. Et je ne vois pas comment on pourrait sauver le président Zelensky. C'est très, très difficile.
Et on parle de 3 tentatives d'assassinat dans la semaine.
Oui, mais enfin, assassinat, mais d'un autre côté, ce que les Russes aimeraient mieux, c'est qu'ils s'enfuient en Amérique pour dire « Regardez le traître, regardez le nazi qui est parti », c'est pour vraiment expliquer qu'eux l'ont préservé. Mais s'ils se rendaient, d'ailleurs, je ne sais pas quel est son choix, il s'est sûr qu'il serait amené en Russie pour être mis en prison jusqu'à la fin de ses jours. Donc, c'est quelque chose qui est terrible et qui est devant lequel l'opinion, en tous les cas occidentale, effrayée, dans le fond, est très impuissante.
Michel Cotard.
Oui, impuissante parce que, justement, la guerre nucléaire est derrière tout ça. Et la menace de guerre nucléaire est derrière tout ça. Il est évident que s'il n'y avait pas de menace nucléaire, quelle que soit l'OTAN, il y aurait eu peut-être des tentatives de borner certaines attaques, etc. Mais c'est vrai que l'OTAN ne peut pas bouger, c'est la ligne rouge. Et quand, en revanche, quand quelques Russes ouvrent le feu sur Tchernobyl ou sur l'autre grande centrale, ce sont quand même des gestes. On a beau dire « Ah ben, ils ont raté la centrale », c'est un signe. Ça veut dire,
c'est un message.
C'est un message. Ça veut dire entrer dans un territoire borné de centrales nucléaires. Ça veut dire quand même, attention, ça on peut faire. Et au fond, on s'aperçoit aujourd'hui, on s'aperçoit tous les manques de notre défense, notamment le nucléaire n'est pas assez protégé. On le sait. Après tout, ça pourrait se passer à Fessenheim ou ailleurs, on peut tirer sur des centrales.
C'est une guerre, je veux dire simplement Michel, c'est une guerre asymétrique. Car tu viens de le dire, d'un côté, on a eu une semaine où Poutine n'a cessé d'augmenter la pression, y compris ce que tu viens de rappeler, c'est-à-dire le coup de canon sur la centrale, était-il
volontaire?
Ah ben ça peut
comme message volontaire.
Non, mais
oui,
ça ne peut être que volontaire.
Mais je veux dire, il y a donc escalade du côté russe, c'est très clair, et il y a eu un truc formidablement important hier qu'on n'a pas tellement traité dans les médias, c'est la déclaration du secrétaire. C'était le fait dominant d'hier. Le secrétaire général de l'OTAN a dit « no fly zone », ça veut dire « on laisse la maîtrise du ciel aux Russes et on n'interviendra pas avec des armes ». Ça, c'est capital, c'est une guerre asymétrique.
Alors, Charles, rapidement, parce que vous nous parliez tout à l'heure de ce coup de fil entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, où finalement, le président français a été mis devant le fait accompli.
Non, mais
aussi.
Je me demande, nous n'avons pas d'informations précises. Lorsqu'il utilise « le pire est à venir », lorsqu'il dit « le président français, le pire est à venir », il n'est pas invraisemblable que le président russe et fait allusion à l'utilisation de ces armes tactiques au nucléaire, puisque le Macron a dit, au retour de ce dialogue, qu'il était inquiet sur la sécurité du nucléaire. Il faut simplement se rappeler que, contrairement aux pays occidentaux, la Russie considère que ces mini-bombes atomiques peuvent être utilisées dans le cadre d'un conflit conventionnel, mais sur le champ de bataille, pas pour la destruction d'une ville. Ce sont des armes qui ont été retirées du service par la France. L'armée de terre a mis au rebut ses missiles nucléaires tactiques, Pluton en 93 et Hadès en 97, qui étaient destinés à briser une offensive blindée. Vous allez voir l'ironie de l'affaire, de l'objectif, une offensive blindée soviétique traversant l'Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on a retiré ses Plutons et ses Hadès.
On marque une pause dans ce débat passionnant des grandes voies. Ne vous éloignez pas dans un instant. On évoque cette menace nucléaire.
Les grandes voies d'Europe 1. Frédéric Michel.
10h20 sur Europe 1, retour des grandes voies. Poutine qui agite le péril nucléaire en Ukraine. C'est un tournant majeur, Michel Cotta.
Au moins pour deux raisons. La première, c'est que la dissuasion était envisagée par les Occidentaux comme une arme qui ne devait pas servir, qui était au contraire, qui dissuadait tout le monde. On se disait une bombe, et puis une grosse bombe, et puis une plus grosse bombe, et l'humanité est fichue. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que la menace de la dissuasion ne court pas. Et le deuxième, quand même, le deuxième aspect, pardon, après je m'arrête, c'est qu'on a l'impression que c'est quand même la première fois depuis 1945 qu'un pays envahit un autre. Et ça veut dire que la Russie n'a plus peur de l'Occident et n'a plus peur de l'Europe. Alors, pour des raisons différentes, mais on est quand même dans un climat très, très, très dangereux et sulfureux.
Cette attaque de la centrale nucléaire, bien sûr, c'est un ordre. Mais l'ordre qui a été donné, quel était-il? C'est faites peur. Viser, d'ailleurs, ils ont bien visé. Ils ont visé à côté, juste à côté. C'était risqué parce que ça aurait pu entamer. Bon, et là, c'est là où on crée la dissuasion. On dissuade les autres. Vous voyez ce qu'on peut faire. Mais là, le résultat premier, c'est que les Ukrainiens ont tellement peur qu'on va fermer les réacteurs. Et donc, le pays va être plongé dans l'obscurité, plus d'électricité, plus rien ne marche. Et c'est une façon aussi d'arrêter la marche du pays. Et j'ai entendu ce matin qu'on annonçait une vague de froid très importante dans les 15 jours qui viennent. Donc, vous voyez, les Russes, là, ils se disent, voilà, c'est la façon de faire que, comme dit Gérard, là aussitôt, bien voilà, on se couche devant la Russie.
Finalement, Gérard Carrérou, même s'il y a un peu de retard peut-être dans l'intervention des Russes, mais ça semble quand même très, très organisé. On s'attaque d'abord aux infrastructures.
Oui, alors là, vous revenez à la manœuvre. Oui. La guerre, ben, je crois que la guerre, Charles l'a dit, la guerre se continuera jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur but de guerre, qui semble être la prise en compte des infrastructures d'une grande partie du pays. Mais moi, je voudrais revenir au nucléaire. Moi, le nucléaire, ce qui me fait peur, c'est l'utilisation du mot qui s'est répandu. Je trouve, vous savez, on disait autrefois, on ne parle pas de corde dans la maison du pendu. Eh bien, commencer à parler du nucléaire au troisième jour ou au deuxième jour. Alors, vous me direz, c'est Poutine qui a commencé le premier.
Mais quand
Le Drian
qui a employé le mot. D'ailleurs, voilà. Poutine n'avait pas employé le mot. Et c'est Jean-Yves Le Drian qui a dit le mot nucléaire.
C'est une erreur de parler du nucléaire dans une guerre qui doit rester. Si on veut avoir. Alors, attendez, on peut vouloir l'apocalypse nucléaire, il y a des gens peut-être qui le souhaitent, en se disant qu'après tout, il y aura des survivants, ils en seront peut-être. Moi, je considère que c'est la pire des choses. Et que si on veut aller à un moment ou à un autre, peut-être dans des semaines ou dans des mois, vers une forme de paix, de retour à la paix, il ne faut surtout pas aborder le nucléaire.
Voilà.
Parce que dès qu'on met le doigt dans le nucléaire... Et
oui,
là,
mais
vous
il a
avez
été
raison.
Abordé, c'est trop
parce
tard.
Que, parce non, que, oui, oui, non, non, mais il faut le rappeler. Poutine a dit, si vous nous gênez, nous emploierons des moyens que vous n'aurez jamais connu. Lesquels? On ne sait pas. Bon, donc il sous-entendait, mais il n'a pas prononcé le mot.
Et la bombe tactique dont vient de parler Charles, c'est très important, parce que les gens ne savent pas en général. Ils voient le nucléaire, la grosse bombe, la bombe atomique, des sous-marins, etc. Oui. Ils ne pensent pas à l'arme tactique. Et l'arme tactique, c'est une arme nucléaire qui peut tuer sur le terrain des milliers, des dizaines de milliers de soldats.
Et qui a été utilisée en Syrie.
Et qui
a été testé en Syrie et qui est épouvantable.
C'est donc une arme du champ de bataille.
Et qui peut entraîner des ripostes justement plus importantes.
Contrairement
bien sûr.
À la France.
Charles.
Oui, non mais je crois qu'il faut revenir à l'origine justement pourquoi tout d'un coup le nucléaire a surgi comme ça dans le débat. Ça n'est pas innocent. Il y a les déclarations bien sûr de Poutine qui ont été relayées par le ministre des Affaires étrangères français, Le Drian, c'est vrai, en rappelant que de toute
c'était
façon...
C'était son rôle
Non, mais il a rappelé que nous aussi, nous avons une arme nucléaire.
C'est quand même nécessaire
de toute façon,
à rappeler, des fois qu'il l'oublie.
On est membre du Conseil, on est parmi les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et vous savez qu'il y a 5 pays inamovibles qui sont là à vie, en quelque sorte. La France, pays nucléaire, sur le plan militaire. L'Angleterre, qui est sous clé américaine, mais pays nucléaire aussi. Les États-Unis. et la Russie et la Chine. Et la Chine, ce sont tous des pays nucléaires qui sont inamovibles au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais je crois que c'était de toute façon réfléchi l'utilisation par Poutine. Il est bien évident, et c'est vrai, que ça fait partie de la doctrine militaire russe. L'emploi de l'arme nucléaire tactique à rayon limité, si vous voulez, sur le champ de bataille, et pas dans la destruction d'une ville, était parfaitement réfléchi. Et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas au tir accidentel. Un dérapage, ce dérapage était contrôlé et pas incontrôlé. L'armée russe occupe la centrale, ce n'est pas un hasard, elle occupe la principale centrale. Et il est évident qu'ils n'ont pas tiré à l'aveugle. C'est simplement un avertissement. Messieurs, nous occupons une centrale à destination civile d'utilisation de l'électricité, mais en même temps, nous tirons sur un proche d'un réacteur. Il y a 6 réacteurs dans la fameuse centrale.
Non,
il y a
15 réacteurs pour revenir sur Le Drian, en Ukraine. Oui. Pour revenir sur Jean-Yves Le Drian, c'est quand même pas lui qui a employé pour la première fois le mot nucléaire. Il était sous-entendu, largement sous-entendu, et plusieurs fois sous-entendu par Poutine. Et lorsque Le Drian a répondu, c'était pour dire... Vous pouvez encore avoir peur de l'Occident et encore avoir peur, effectivement, et de la France même. Donc, c'était, je crois, un coup d'arrêt nécessaire pour montrer que, on jouait à ce jeu-là, on était quand même aussi qualifiés.
Michel, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Je veux dire par là, ce n'est pas la peine de les cacher.
Mais quand
Mme von der Leyen, responsable de l'Europe, parle de les livraisons d'armes, ça veut dire quelque part... Au moment, enfin 3 jours après que Poutine ait dit attention, l'interférence, s'il y a des actions, si on livre des armes, on ne peut plus dire après qu'on n'est pas quelque part co-belligérant. Donc, de même que je regrette l'idée qu'on ait lancée sur les médias, l'idée que notre porte-avions nucléaire allait se rendre dans la région. Ce sont des signes. Alors, où on veut la guerre totale? Et dans ce cas-là, tout est bon à prendre. Ou alors, on essaye de trouver une solution.
Se coucher sans rien dire.
C'est ce que disent les bellicistes actuellement. Ce n'est pas se coucher sans rien dire.
Ce n'est pas se coucher sans rien dire.
L'alternative n'est pas la guerre totale et nucléaire et rien du tout.
Elle n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'elle est présentée.
Comme dit Védrine, tu aimes bien Védrine, comme dit Hubert Védrine, tout faire pour renouer un fil de négociation diplomatique.
De toute façon,
vous savez, les Russes ont pris tout de suite la mesure des pays occidentaux. À l'origine, c'est le lâchage de la Crimée. Lorsque les Russes ont décidé l'annexion de la Crimée, c'est à partir de là que nous avons mis un genou à terre. Parce que nous n'avons pas scié par rapport à cette annexion. Et tout est parti de là. Aujourd'hui, l'avance des troupes russes inéluctables. Elle part d'où ? Du sud, où il y a une assurance, une stabilisation de toute l'armée russe, parce que ses arrières sont assurées. Le Donbass, la Crimée, évidemment, et tout le sud de l'Ukraine, qui est déjà, de toute façon, sous main russe. Mariupol va tomber, c'est inéluctable. Il y aura un couloir, évidemment, humanitaire pour évacuer la population, pour éviter le massacre. Et simplement, ils évitent le massacre uniquement parce que les images seront terribles pour l'image de la Russie.
Bien sûr.
Vous écoutez le débat des grandes voix, il est 10h passé de 28 minutes. On se retrouve dans une poignée de secondes. On poursuit cette discussion juste après la pause.
Les grandes voix d'Europe 1. Frédéric Michel.
10h passé de 31 minutes sur Europe 1, retour des grandes voix, Gérard Carrérou, Catherine et Michel Cotta et Charles Villeneuve sont dans ce studio. Alors, on a envie de se poser la question, la paix est-elle encore possible, Gérard Carrérou? Ça fait 10 jours que les combats ont débuté.
Vous savez, 10 jours dans une guerre, c'est finalement très court. Ça nous paraît long parce qu'on en parle tous les jours. Mais 10 jours dans une guerre, je crains que la guerre ne dure plusieurs semaines avant qu'une piste sérieuse de discussion s'amorce. Mais il faut tout faire pour qu'elle s'amorce. Et d'ailleurs, il faut le faire plutôt discrètement que, je dirais, en relatant des conversations téléphoniques et en les mettant sur la place publique. Mais enfin bon, la diplomatie, c'est ce qui peut nous sauver. Mais à condition que Poutine ait envie de négocier. Parce que il faut être deux pour danser le tango, mais il faut aussi être deux pour faire la paix. Si les Occidentaux veulent faire la paix, il semble, puisque les Américains ne veulent pas intervenir militairement, puisque les Européens... Bon, si on veut pouvoir négocier, c'est avec Poutine. Et Poutine est... Alors là, la question est, Poutine est-il un homme qui va vouloir négocier ou il va vouloir « je prends tout, je garde tout, j'occupe tout » Et dans ce cas-là, ça va reposer le conflit
Poutine,
différemment.
C'est « donne-moi ta montre que je te donne l'heure voilà. ». Hein. Il est d'accord pour négocier une fois que toutes les choses seront faites.
Tout donné,
sauf
oui.
qu'il est possible qu'il ait, il puisse dire « j'ai gagné ». Mais je pense que longtemps, les Ukrainiens qui restent, qui auront perdu beaucoup des leurs, il y aura toujours, maintenant, ils sont armés, très armés. On leur a distribué des armes, ils vont s'en sortir, s'en servir. Donc moi, je crois que même si les Russes prennent le pouvoir, même s'ils installent un gouvernement fantoche, ce qui n'est pas encore fait, il y aura encore des bagarres. Les Russes, les militaires russes seront... Ça va durer longtemps, même s'ils disent « on a gagné ».
Avec des conséquences sur le monde entier. Mais
sur le monde entier.
Sur le monde entier. D'abord, on ne sait toujours pas où ils s'arrêteront. Si on écoute le président ukrainien, ils vont venir jusqu'à Berlin, ce à quoi je crois quand même c'est une...
Mais Zelensky prévient. Après,
c'est presque une propagande à l'envers, si j'ose dire. Mais enfin, même s'ils sortent de leur territoire, s'ils sortent juste de l'Ukraine pour récupérer un petit peu de la Transnistrie, etc., ça pose d'autres problèmes. Et là, pour le coup, il n'est pas sûr que le recul de l'OTAN durera. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, est-ce que, on se pose tous la question, et au fond, on n'en sait rien, qui est Poutine ? À quel stade en est-il ? Est-ce qu'il est malade, comme le disent certains ? Est-ce qu'il est prêt, comme le dit Alexandre Adler, par exemple, à être trahi dans sa proximité par les deux ou trois personnes qui... On n'en sait rien, vraiment. Et moi, finalement, je ne suis pas sûr du tout que Poutine soit l'homme aussi fou qu'on décrit. Je trouve qu'au contraire, tout ça est très médité et assez raisonnable et a été annoncé.
Vous avez posé la question, Frédéric, la paix est-elle encore possible ? Elle est, quand on regarde les exigences des Russes, elles sont insurmontables. A priori, en théorie. Qu'est-ce qui a provoqué la guerre ? C'est l'entrée, la demande. Ce n'est pas l'OTAN qui est allé chercher Zelensky. Il faut quand même le rappeler. C'est Zelensky qui a demandé à entrer dans l'OTAN, comme la plupart des pays anciennement du pacte de Varsovie, qui est l'équivalent de l'OTAN à l'Est, au moment des Soviétiques, qui ont demandé à entrer dans l'OTAN, la protection de l'OTAN. Et l'OTAN n'a ouvert ses portes qu'après plusieurs des conditions posées, des fois au bout de 2-3 ans, ce qui a été le cas de la Hongrie, ce qui a été le cas de la Roumanie, ce qui a été le cas de la Pologne. Et c'est la même chose pour l'Ukraine. Bon, ce n'est pas l'OTAN qui l'a sollicité, c'est l'Ukraine qui a demandé à entrer et à se placer sous la tutelle de l'alliance de défense de l'OTAN. Bon, les Américains n'ont pas de toute façon, eux-mêmes, susciter l'Ukraine. C'est faux de dire ça. Bon, ça, c'est la première chose. Et il y a une condition, c'est la renonciation à, justement, à l'idée d'entrer dans l'OTAN. Ça, c'est la première condition que demandera Poutine. Et Poutine demande aussi la reconnaissance de fait par l'Occident de la Crimée. Et puis, il y a d'autres conditions auxquelles il peut renoncer. Mais il ne renoncera de toute façon. Et il y aura une voie possible que lorsqu'il aura occupé territorialement, notamment la capitale de l'Ukraine, Kiev.
Catherine. Oui, mais en 2008, George Bush et ses conseillers qui étaient en Géorgie poussaient la Géorgie à entrer dans l'OTAN et disaient même qu'il faudrait aussi que l'Ukraine. Donc il y a eu quand même un gouvernement, enfin du temps de Bush. Ça ne s'est pas fait parce que à la fois Sarkozy et Mme Merkel, Nicolas Sarkozy, ont stoppé la chose.
Absolument.
Mais ces deux pays voulaient. Ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'hier, il y a eu en Géorgie et aussi à Prague des foules immenses pour soutenir les Ukrainiens qui passaient sur un écran géant le discours de Zelensky.
À la demande du président Zelensky, hein, qui appelait Belgrade, Paris, Lyon, Tbilissi à descendre dans la rue. Et on a vu dès hier soir des dizaines de milliers de personnes.
Oui. Bah, il faut dire que la présidente de Géorgie, qui s'est exprimée récemment, est la première à craindre justement que le sort un peu, l'équilibre de la Géorgie bascule.
Mais c'est-à-dire que déjà, ils sont en déséquilibre, la Géorgie.
Oui.
Il ne faut pas oublier, avec l'Ossétie du Sud et notamment qui sont déjà deux régions occupées par
C'est le nœud de l'affaire. Effectivement, Charles, tu as raison. La première chose que va demander, que demandera le jour où il y aura une négo, hein, c'est pas demain la veille, mais le jour où il y aura une négo, il demandera un traité garantissant ad vitam aeternam la non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'était possible avant. Je crains que c'était possible avant la guerre, si j'ose dire, et qu'on aurait dû y travailler.
Et que
malheureusement, il y avait des promesses. Il y avait même eu le veto de la France et de l'Allemagne en 2008. N'oublions jamais ça. Veto de la France et de l'Allemagne à l'entrée de l'Ukraine, justement pour des raisons. Attention, ça va être comme de lancer de l'acide sur les Russes. Donc, on ne le fait pas. Et je crains que ça soit difficile. Maintenant, parce qu'il y a le fait nouveau que vous veniez d'évoquer, c'est le surgissement d'un fait national ukrainien qui n'existait pas. On se disait l'Ukraine, oui, c'est un bout, de l'ancienne URSS. Oui. Et puis ce bout, bon, ben, à la limite, on peut en disposer comme on disposait de la Pologne sous Louis XIV ou sous Louis XV. Eh ben non, il y a maintenant un peuple et un peuple qui va s'unir encore dans la guerre.
Gérard, très court, hein, Gérard.
Donc ça sera difficile.
Non, oui, très court. Là où il a raison, Gérard, c'est que avant même cette déflagration, en quelque sorte, on aurait dû proposer à Poutine, en quelque sorte, une négociation sur l'architecture de la sécurité en Europe.
Bien sûr, c'est en ça
on ne l'a pas fait sur ce plan-là. Mais cette voie est encore possible. Il faut l'utiliser. Il faut, parce que la voie diplomatique doit toujours, si vous voulez, quand il y a un affrontement de ce type et quand on arrive pas loin des extrêmes, à utiliser la voie diplomatique.
10h38 sur Europe 1, les grandes voies reviennent dans un instant.
Les grandes voies d'Europe 1. Frédéric Michel.
De retour dans notre débat des grandes voix. Qui pour arrêter Vladimir Poutine ? De plus en plus d'oligarques russes se désolidarisent du président à la suite des sanctions économiques mises en place par la communauté internationale. Alors, est-ce que le coup d'arrêt Catherine Ney peut-il venir de son propre camp, de ces oligarques, de la population, des opinions mondiales ?
Ah ben, les opinions mondiales, ils ne les écoutent pas. Je veux dire, non, qu'est-ce qui pourrait éventuellement le freiner ? C'est qu'autour de lui, ses plus grands soutiens le lâchent, comme par exemple Lavrov, qui sont ministres depuis 18 ans, mais qui absolument suit toutes les recommandations du patron, quel qu'il soit. Voilà, et même quelqu'un disait qu'il a toujours été la voix de son maître et qu'il peut vraiment dire des choses les plus défendre la politique étrangère la plus sinistre de la manière la plus civilisée. Donc c'est un type qui est redoutable. Donc il ne lâchera pas. Le patron, le patron de l'armée qui est Sergueï Choïgou, qui a d'ailleurs, qui se flatte d'avoir utilisé les armes nucléaires en Syrie. Bon. Donc, l'opinion. Mais l'opinion, elle n'existe pas. Comment peut-elle s'exprimer ? Est-ce qu'elle est vraiment au courant ? Là, aujourd'hui, tout ce qui était les blogs, les radios indépendantes, elles ont fermé, elles ne s'expriment plus. Donc, la seule chose qui puisse... Poutine, quand il est arrivé, il a redonné du pouvoir d'achat aux Russes. Or, aujourd'hui, ce pouvoir d'achat s'effondre. Le rouble s'effondre. Les Russes qui ont été confinés à cause du Covid ne vont plus pouvoir voyager. Donc, ils vont se sentir enfermés. Est-ce que cette opinion-là peut réagir ? Quel est son mode d'expression ? Je n'en sais rien.
Michel Cotin.
J'ai une amie à Saint-Pétersbourg. Bon, il me disait qu'il était une amie complètement restée dans l'univers de Poutine et considérant justement que Poutine a rétabli l'ordre et que ça lui suffit. Bon, eh bien... elle est complètement imperméable aux arguments qui lui disent « Oui, mais attention, le rouble va monter. Attention, vous allez être les premiers. » Elle dit « Mais nous, le peuple russe, on a une résilience. On a connu des tas de choses. Ça fait des années qu'on vit sous un blocus avec des sanctions. Eh bien, on se serrera la ceinture. » Et c'est pour la Sainte-Russie.
Bon, on le voit quand même, il y a quelques manifestations en Russie, très vite réprimées.
On est en prison,
on est d'accord.
Et on parlait d'un conflit qui va durer, Gérard Carrérou.
Oui, alors, mais si on regarde un peu l'histoire, pour les grands autocrates de notre histoire, c'est rarement... qu'est-ce qui les a fait finalement céder ? C'est rarement les opinions publiques. Il n'y a pas eu d'opinion publique, si vous voulez, formidable contre Staline. à aucun moment.
Sauf que le mur est tombé de la force des gens.
Je veux dire, je prenais des exemples d'autocrates comme Poutine, puisqu'on essaye de faire des comparaisons. Ce n'est pas Napoléon, ce n'est pas les déboires de l'Espagne ou les déboires de Russie qui ont fait que l'opinion française s'est détournée de lui. Hitler, j'en parle pas, il y a eu le complot de Stauffenberg, mais en fait, ce n'est pas l'opinion publique allemande qui l'a tué. Poutine, d'où la réponse précise à votre question, je pense que la seule chose qui peut le faire reculer, c'est s'il obtient l'os, le gros os, qu'il veut, et qu'il s'aperçoit qu'il ne faut pas qu'il en veuille trop d'autres, parce que sinon ça va lui tomber sur la gueule. C'est-à-dire, s'il s'aperçoit qu'on peut négocier sur le temps, comme on vient de l'évoquer, mais que s'il veut s'attaquer à n'importe quel autre bout, à ce moment-là, il y aura une menace américaine ou une menace de l'OTAN. C'est la seule chose, le déboire personnel de son armée, à un moment ou à un autre, qui peut le freiner.
Charles.
Oui, la question au fond, c'est d'où peut sortir un nouveau Brutus ? C'est-à-dire, il ne faut pas oublier, moi je suis très attentivement une journaliste tchèque qui est très renseignée, qui connaît très bien Poutine et qui s'appelle Petra Prožáková. Bon, elle écrit dans un grand quotidien tchèque qui s'appelle Denis K et elle est traduite, et c'est comme ça d'ailleurs que je la suis, puisque moi je ne parle pas le tchèque. Bon, et donc elle dit très, très précisément qu'en réalité, il y a 3 à 4 hommes seulement qui ont encore l'oreille de ce monarque qui est entouré de généraux toujours habillés en vert, ce qu'on appelle les siloviki, c'est-à-dire les hommes de la sécurité, du renseignement. C'est resté un lieutenant-colonel du KGB. Bon, et c'est la raison pour laquelle...
Et agent dans les services, tous.
Mais toujours. Oui, toujours. Et c'est ce qu'il dit. Il dit agent du KGB, agent toujours. C'est lui-même qui a utiliser cette formule.
Et stalinien, toujours. Et,
bien sûr. Le général Bornikov, qui est directeur des services fédéraux de sécurité, Sergueï Narychkin, qui est chef des services secrets, et autres, natifs influents de Saint-Pétersbourg, n'oublions pas qu'il est de Saint-Pétersbourg, Poutine, c'est le général Patrouchek, qui, avec les hommes que je viens de citer, sont les chuchoteurs à l'oreille de Poutine. Donc, si vous voulez, Poutine, c'est un homme qui n'obéit qu'au rapport et qui ne raisonne que par rapport à la force, à un rapport de force. Or, le rapport de force, pour l'instant, ne sera établi dans son sens que lorsqu'il aura conquis totalement l'Ukraine.
Et c'est pour ça qu'il faut garder, nous, il faut qu'on garde le lien avec, justement, Vladimir Poutine.
C'est très important.
Que les canaux soient importants, sûrement. On a vu que le président allemand, le chancelier allemand, d'ailleurs, a eu, lui aussi, Poutine au téléphone. Non, c'est très important de garder des canaux. Mais néanmoins, je trouve que ça changera sans doute pour les années à venir l'image de l'Europe. Et la stratégie de l'Europe. C'est vrai que ce n'est pas un hasard quand maintenant certains pays demandent à toute allure l'OTAN et d'adhérer à l'OTAN. Ce n'est pas un hasard non plus si on se dit, et si Macron le dit, la défense européenne, ça va être la première préoccupation alors que ça ne l'était pas. Comme dirait Charles Villeneuve, la préparation d'une défense européenne, il nous faut beaucoup d'années pour y arriver. C'est
minimum
pas demain.
10 ans,
et
oui.
C'est pas. Il faut 5-6 ans. Donc, ça va être quand même la première préoccupation et peut-être les premiers budgets.
Charles, non, vous vouliez vraiment dire.
Le canal utilisé par Poutine lui-même, c'est lui qui a appelé de toute façon le dernier coup de fil, c'est à l'initiative de Poutine. Parce que, aussi, la France, aux yeux des Russes, présente 3 caractéristiques, 3 avantages. Si vous voulez. On n'est pas totalement aligné sur les États-Unis au niveau diplomatique. Notamment, on l'a vu sur l'Irak. Par exemple, et même sur l'Ukraine, très réservé sur la question de l'entrée de l'OTAN, la France. Et il y a aussi un fait très important, c'est que nous avons une force nucléaire stratégique indépendante des Américains. Les Anglais, par exemple, sous son clé américaine. Et puis, on a un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.
Gérard Carrérou, très rapidement.
On a dit que c'était plus important, certains ont dit, c'est plus important que ce qui s'est passé à New York le 11 septembre. Pourquoi ? Parce que c'est la fin, et ça, Rodecker, je renvoie à la lecture de ce philosophe, Robert Rodecker a dit, c'est la fin de l'insouciance européenne. Ça veut dire que l'Europe, aujourd'hui, sera obligée, qu'elle le veuille ou non, au lieu de se cantonner dans une espèce de puissance molle qui vit plutôt bien, etc., qui s'agrandit, mais qui n'a pas de politique étrangère, qui n'a pas de dessein, etc., elle sera obligée d'avoir une défense et obligée d'avoir une politique étrangère. Et ça, c'est la fin d'une partie de l'histoire.
Allez, restez à l'écoute d'Europe 1. On marque une dernière pause dans ce débat des grandes voix et l'on parle de la campagne présidentielle.